Radio Okapi.
Le journal présenté par Jocelyne Moussaoupondé. Naufrage d'une baleinière dimanche soir au beach Cambolé dans la province du Maniema. Une vingtaine de corps repêchés, plusieurs disparus, c'est les bilans encore provisoires de ce drame. Nuages gris entre Kinshasa et Kigali. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda et le 1-23 de brouiller son espace aérien, occasionnant ainsi des interférences dangereuses dans les systèmes GPS des avions. Dégradation des routes de la capitale et embouteillage, qu'est-ce qui explique cet état des choses? L'ingénieur Balaï Kadima, directeur technique honoraire de l'office de route, va nous expliquer. Il est notre invité. Bonsoir à tous. D'abord, cette nouvelle, la situation de sécurité et de paix dans l'est de la République démocratique du Congo a été au centre des échanges entre les chefs de l'État angolais et le chef de la diplomatie de la RDC, du Rwanda et de l'Angola, rapporte l'agence angolaise de presse. La ministre d'État et des Affaires étrangères de la coopération internationale et de la francophonie de la RDC, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et des relations extérieur de l'Angola participe dans la capitale angolaise à la deuxième session de la réunion ministérielle qui se déroule dans le cadre du processus de Luanda. La rencontre entre les ministres intervient à la suite des consultations menées par la médiation angolaise en vue de trouver des solutions pour la paix dans l'est de la RDC. Ici au pays, parlons de ce drame dans la province du Maniema. On dénombre 20 personnes mortes dont les corps sont repêchés et plusieurs disparus. C'est le bilan provisoire du naufrage d'une baleinière dimanche soir au beach Cambolé dans la ville de Kindu. Selon plusieurs sources, la surcharge serait à la base de ce drame. Arrivé sur le lieu du drame pour s'enquérir de la situation, le gouverneur Moussa Kabankoubi Moïse parle de la mise en place d'une commission d'enquête. Toujours selon lui, des dispositions sont prises pour un enterrement digne des personnes décédées dans ce naufrage. Florence Kizalunga, reportage.
Selon les informations en notre possession, cette baleinière transportée à son bord des moellons destinés aux travaux qui s'effectuent sur les tronçons d'Ingui. Profitant de sa descente à Lukando, plusieurs personnes ont embarqué avec leurs biens. Vu la surcharge, la baleinière n'a pas fait même un kilomètre avant de sombrer. Le gouverneur qui s'est rendu sur place parle des mesures prises. Moussa Kabankoubi.
C'est d'abord un message de compassion à toutes les familles éprouvées. Le deuxième message, c'est que nous annonçons la création d'une commission d'enquête qui sera composée de tous les services compétents afin d'établir les responsabilités. Surtout de prendre aussi des mesures préventives pour que cette situation puisse plus se répéter. Troisièmement, nous prenons des mesures au niveau de la province pour assister, pour enterrer dignement nos frères et sœurs qui viennent de nous quitter de manière aussi tragique que ça. Donc nous prenons toutes les dispositions pour saisir aussi le ministère des Affaires humanitaires afin d'assister les familles des victimes. Nous insistons surtout sur le calme et la paix, la tranquillité, afin que nous puissions enterrer nos frères et sœurs dignement.
Signalons que l'équipe de sauvetage est à pied d'œuvre pour la recherche des personnes encore disparues. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Un incident, un incendie, allais-je dire, s'est déclaré ce mardi dans une station-service dans les environs de l'hôpital général de Bukavu. Le bilan provisoire fait état de 3 personnes grièvement blessées, 2 maisons, 2 véhicules et 2 motos calcinées. Jean Kassami revient du lieu de l'incendie dans la commune de Kadutu. Voici son reportage.
Des témoins rencontrés sur les lieux racontent que l'origine du feu est partie d'un camion qui chargeait des bidons d'essence à l'intérieur de la station même. Le feu s'est étendu rapidement sur 2 maisons de commerce situées en face de l'autre côté de la route. La flamme, accompagnée d'une fumée intense, a interrompu la circulation sur la route nationale numéro 2. Un conducteur de moto-taxi qui a tenté de traverser en bravant la flamme a été grièvement brûlé et conduit à l'hôpital général de référence avec 2 autres victimes collatérales. La proximité entre la station et l'hôpital général de référence de Bukavu a semé la panique. Plusieurs malades se sont évadés. La plupart figurent dans la catégorie des malades guéris, mais qui sont restés maintenus à l'hôpital faute d'argent pour honorer leurs factures. Les services de sécurité au sein de l'hôpital déclarent qu'il s'est retrouvé face à une foule qu'il a eu du mal à maîtriser. La situation est redevenue normale grâce au camion anti-incendie de la commune qui a effectué des tours successifs avant de maîtriser l'incendie. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Dans la ville de Beni, lancement hier lundi du projet Star Est, un projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC. Il a été présenté lors d'un atelier qui a connu la participation des autorités urbaines, territoriales, les attributeurs des différents acteurs routiers ainsi que les représentants de toutes les couches sociales de la population. Comment ce projet va-t-il être exécuté et quelles sont les responsabilités des uns et des autres pour sa réussite, Marc Maroufimbo?
Ce nouveau projet de stabilisation et de relèvement communautaire vise la réhabilitation des axes routiers proposés par les autorités et cadres de base. Il s'agit des travaux à haute intensité de main-d'œuvre qui seront exécutés autant dans la ville que dans le territoire de Beni. Il vise notamment la stabilisation et la réintégration à base communautaire et la gouvernance décentralisée. Un projet salué par les bénéficiaires. José Kapisa, chef du quartier Nzuma.
Comme ça s'est fait avec d'autres projets, il y a vraiment une autre amélioration et surtout que l'aspect réclamation du niveau bénéficiaire, parce qu'avec l'ancien projet, vraiment on a fini avec beaucoup de difficultés où pour le paiement, il fallait seulement ce que les gens donnent beaucoup de réclamations et ça faisait comme si le projet n'a pas un impact positif.
Le projet se veut communautaire. La communauté doit donc s'en approprier et s'y impliquer activement pour sa réussite, a dit Jean-Claude Kassomo, le coordonnateur provincial de Star Est.
Nous avons insisté que c'est un projet communautaire. Ça veut dire que c'est la communauté qui doit s'impliquer, qui doit s'approprier. Nous avons apporté l'information. Il est question maintenant que chaque communauté puisse voir par rapport à leurs besoins. Quels sont les besoins qui peuvent remonter à travers leur comité local de développement au projet pour que nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons répondre à leurs besoins.
Signalons que ce projet d'une durée de 5 ans est financé par la Banque mondiale. Beni, Marc Maroufimbo, Radio Okapi.
Et puisque nous parlons de la Banque mondiale à Kinshasa, la délégation de cette institution de Bretton Woods, conduite par son directeur des opérations, Albert Zefak, a présenté à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, le portefeuille du secteur de l'éducation en RDC, estimé à 1,4 milliard de dollars. C'était hier lundi au cours d'une séance de travail au cabinet du ministre. La feuille de route de la Banque mondiale prend en compte quatre axes stratégiques, notamment l'accompagnement du programme de la gratuité de l'enseignement de base, le développement des compétences, la gestion des violences sexuelles basées sur le genre et l'éducation au centre des valeurs. Ces différents programmes visent à soutenir la politique gouvernementale dans les secteurs de l'éducation nationale pour mieux servir la population. On écoute les explications d'Albert Zefak dans cet extrait proposé par Alain Runk.
J'ai conduit une délégation de la Banque mondiale aujourd'hui pour rencontrer Son Excellence Madame la Ministre d'État en charge de l'éducation. Et avec elle, nous avons passé en revue le cadre de collaboration qu'il y a entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. Un portefeuille extrêmement important d'1,4 milliard de dollars qui soutient la gratuité de l'enseignement primaire et qui travaille à améliorer la qualité de l'éducation dans l'enseignement primaire. Un portefeuille qui s'occupe de former les maîtres et les enseignants dans le secondaire et aussi un portefeuille qui lutte contre les violences basées sur le genre à l'école. Un portefeuille qui contribue donc à faire de l'école un havre de paix pour les jeunes filles et les femmes. Et nous avons discuté effectivement des opportunités pour approfondir cette collaboration.
En Ituri, le marché Ouzi, situé à 93 km au nord de Bunia dans le groupement Pimbo, territoire de Djougou, est de nouveau opérationnel après 6 ans de fermeture à la suite de l'activisme de groupes armés. Cela grâce aux efforts de pacification menés dans cette région par les autorités provinciales. Selon l'administrateur du territoire de Djougou qui a présidé la cérémonie du lancement d'activités dans cet espace d'échanges commerciaux, l'objectif est de renforcer la cohabitation pacifique entre les communautés Emma et Lindou qui fréquentent ce marché. Martial Kizabiamungu.
Des membres des communautés territoriales de sécurité, des chefs coutumiers Emma et Lindou, notables d'Ndjougou, la société civile et une délégation de la MONUSCO ont pris part à cette cérémonie de la reprise d'activité au marché des Ouzi. Cet espace commercial considéré comme un carrefour entre 5 chefferies et secteurs était saccagé par les groupes armés actifs dans la région. Depuis lors, aucune activité y était organisée. Selon l'administrateur du territoire de Ndjougou, c'est grâce au dialogue dialogue communautaire initié par les autorités provinciales dans les cadres de la recherche de la paix et la cohabitation pacifique. Les marchés des Ouzi paient de nouveau recevoir les habitants venus de plusieurs communautés pour y exercer leurs activités commerciales. Les commissaires supérieurs Rifem Apela, tout en rassurant les marchands de leur sécurité, appellent la population à saisir cette opportunité pour relancer les développements de leur milieu. Dans les passés, les marchés des Ouzi approvisionnaient la ville de Bounia en chèvre, poules et d'autres produits champêtres. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Je le dis dans les titres, la RDC accuse le Rwanda de brouiller son espace aérien, ce qui, pour Kinshasa, compromet la sécurité du transport aérien civil dans le pays. Dans un communiqué rendu public hier lundi, le gouvernement congolais dit avoir saisi l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, pour dénoncer les attaques rwandaises qui occasionnent les interférences dangereuses observées dans les systèmes de positionnement global GPS des avions. Toujours selon le gouvernement, des perturbations causées par des attaques de brouillage et d'usurpation d'identité touche les zones de vol de la province du Nord Kivu autour de Goma, incluant Beni, Butembo, Kibumba et Kanyabayonga. Pele Kipelamondo.
Selon toujours le communiqué du gouvernement, les actes posés par le Rwanda compromettent gravement la sécurité du transport aérien civil, posant un risque significatif pour tous les vols, y compris les compagnies aériennes commerciales. De plus, ils mettent en danger les missions humanitaires essentielles menées pour soutenir les populations locales victimes de violences perpétrées par des troupes rwandaises sur le territoire de la RDC. Selon le gouvernement, une enquête réalisée par les services compétents a confirmé que ces brouillages sont l'œuvre de l'armée rwandaise et de ses alliés, l'AFC et le M23. Cette investigation, poursuit le gouvernement, a été corroborée par des rapports d'acteurs internationaux opérant sous mandat international du Conseil de sécurité de l'ONU dans les domaines de l'aide humanitaire et des opérations de paix ainsi que des ONG internationales. La RDC condamne fermement ces actes qui constituent des violations graves du droit international comparables à l'usage d'armes de guerre contre des cibles civiles. Ces actions, selon Kinshasa, sont un élément supplémentaire illustrant davantage le mépris avéré du Rwanda pour le droit international et la protection des vies civiles.
Au Nord Kivu, une accalmie s'observe ce mardi à Katwe, groupement Mutanda, dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Ceci après des combats qui ont opposé dans la nuit de lundi à ce mardi, autour de 22 heures locales, les rebelles du 1-23 aux combattants du groupe armé CMC FAPC de Jonas Bigabo. Le président du Parlement des jeunes de la chefferie de Bwito indique que ces combats ont eu lieu dans les villages Busukura, non loin du centre de Katwe. Il déplore cette situation qui perturbe la quiétude de la population en ce temps de trêve humanitaire. Chirac Mafoula est joint ici par Bernard Danyangi.
L'ennemi a été repoussé et la situation s'est révélée relativement calme. La population reprend leurs activités dans ces endroits. Néanmoins, il y a toujours de l'inquiétude parce qu'on ne sait pas qu'importe quoi, ça pourrait encore percuter. Comme il y a la trêve humanitaire, mais qui ne parvient pas à être effectivement à 100% respectée. Alors, il y a vraiment de l'inquiétude à milliers de habitants de partout dans la zone non encore occupée par l'ennemi et dans la zone occupée par l'ennemi où se rapportent des cas de pillage surtout. Dernièrement, on a enregistré des cas de pillage, de torture à la mort de populations qui sont à Mutanda et aussi l'axe Kibirizi à Nyanzale. C'est pourquoi nous essayons de lancer un appel au gouvernement de la République et à tous ses partenaires de voir comment multiplier les efforts et ravitailler les forces de sécurité pour qu'ils puissent restaurer la paix et à libérer les entités.
Pendant ce temps, la situation reste volatile depuis trois jours dans la partie ouest du groupement Bachalimokoto, territoire de Massissi. Hier lundi, une fois encore, des combats ont opposé le rebelle du M23 appuyé par le Rwanda aux combattants de groupes armés. Nos sources déplorent la reprise de ces combats sporadiques qui provoquent d'autres mouvements de population dans cette zone alors que la trêve humanitaire est toujours en cours. Ici à Kinshasa, l'intersyndicale de la société de transport du Congo, Transco, décide de lever la grève ce mardi, après le paiement de 2 mois d'arriéré de salaire par le ministre des Finances. C'est ce qu'a annoncé tard dans la nuit d'hier lundi le président de l'intersyndicale de Transco, à l'issue d'une réunion de travail avec le ministre des Finances, Doudou Fouamba, qui a confirmé le paiement des 2 mois de salaire. Ce paiement qui s'inscrit dans le cadre de l'appui du gouvernement est vivement salué par la délégation syndicale de cette entreprise publique. On écoute le président de l'intersyndicale de Transco, Didier Kimbumbu, au micro de Michel Kifindangoy.
Nous demandons aux agents qu'ils reprennent de demain le travail en laissant les portes de Transco ouvertes de 2. Nous leur avons dit dans les avant-midi que le VPM Transport a déjà nommé des auditeurs pour qu'il y ait ce qu'on appelle l'audit au niveau de Transco. Et il avait demandé à ce que tous les agents qui détiennent des éléments susceptibles de mésgestion, qu'ils déposent ces éléments-là auprès de ces auditeurs-là. Et par après, le gouvernement se prononcera. Et que les revendications ont été prises en compte à plus de 90%. Plus nos besoins qu'il y ait des protestations. Maintenant, c'est l'heure de reprendre le travail. Je crois qu'avec ces paiements, demain déjà, la banque sera créditée et que les agents verront le message chacun dans leur compte pour aller percevoir leur salaire.
Notez que la situation est revenue normale dans une bonne partie de la ville, notamment à l'ouest et au centre de Kinshasa. Taxis et taxibus sont bien visibles. Les attroupements d'hier ont disparu des arrêts de bus. Par contre, les Kinois qui habitent dans le district de La Tchangou souffrent encore. Ce mardi, les véhicules faisant le transport en commun sont plutôt rares. Et c'était le cas jusqu'en début d'après-midi. Du coup, certains ont traîné aux arrêts de bus, d'autres ont fait une partie du trajet à pied pour tenter d'attraper un moyen de transport un peu plus loin. L'appel à la reprise des activités, vous l'avez suivi, était lancé hier dans la soirée par le gouverneur de la ville et le représentant provincial de l'ASECO, l'association des chauffeurs du Congo. Après une réunion, il a notamment été décidé la redynamisation du cadre de concertation entre les deux parties. Ce mouvement de colère de chauffeurs a aussi été débattu hier avec le gouverneur central. La boxeuse Marcela Sakobi est éliminée dès l'entame par l'Ouzbek Sitora Tourdibekova au point 2-3 à l'étape des 16e de finale dans un combat très serré à 3 rounds dans la catégorie de moins 57 kilos. La Congolaise avait pourtant bien commencé le combat en remportant le premier round. Elle s'est fait rattraper au 2e round avant de perdre le 3e. Comme aux Jeux Olympiques de Tokyo, Marcela est encore éliminée au premier tour. Tout en larmes, elle exprime sa déception au micro de Michel Tobo, notre confrère d'actualité.cd.
Je ne sais quoi dire. J'ai mis une application, tout ce que mes coachs m'ont demandé de faire. Je ne sais quoi faire encore. Je l'ai vaincu. Je ne sais pas sur quelle base apporter les jugements. J'ai appliqué tout ce que les coachs m'ont dit. Les coachs, ce sont eux les techniciens.
Je suis émotionné, je ne saurais pas parler.
Marcela est le 2e athlète congolais à être éliminé au JO de Paris après le judoka Arnold Kisoka.
Actualité internationale.
L'Éthiopie libéralise son régime de change et obtient une aide de 3,4 milliards du Fonds monétaire international. La Banque centrale d'Éthiopie a annoncé hier une réforme majeure du régime de change grâce à ce changement d'un système jusqu'ici ultra verrouillé. Le pays a obtenu donc la validation par le FMI d'un programme d'aide de 3,4 milliards de dollars en sa faveur. Cela signe la fin d'une surévaluation artificielle de sa monnaie. Hier, la Banque centrale éthiopienne a laissé flotter la monnaie nationale, le birr, qui a plongé de 30% par rapport au dollar. Les banques éthiopiennes sont désormais autorisées à vendre et à acheter des devises étrangères à leurs clients et entre elles à des taux librement négociés.
L'invité.
Qu'est-ce qui explique la dégradation de routes et les embouteillages à Kinshasa? Radio Okapi reçoit dans ce journal l'ingénieur Balaï Kadima, directeur technique honoraire de l'office de route, aujourd'hui à la retraite. Dans cet entretien avec Michel Kifindangoy, l'ingénieur Balaï Kadima propose l'exécution du plan directeur de transport urbain de Kinshasa élaboré par les Japonais comme solution aux embouteillages dans la capitale. Suivez.
Ingénieur Balaï Kadima, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce qui explique les bouchons déplorés ça et là dans la capitale?
Pour des problèmes des embouteillages, je suis désolé, je peux même dire que je suis triste. J'ai l'impression que nous cherchons des problèmes au lieu de résoudre les problèmes. Un petit exemple tout simplement sur les embouteillages. Quand il y a eu les jeux de la francophonie, est-ce qu'il y avait l'embouteillage? Il n'y avait pas d'embouteillage, n'est-ce pas? La francophonie terminée, on revient dans ce désordre là-bas. Effectivement, les études ont été faites par la JICA, la coopération japonaise, et cette étude a duré 18 mois. On s'attendait à ce que les propositions données dans cette étude puissent être appliquées, mais ce n'était pas le cas. Plutôt, on a vu autre chose.
Le président Tshisekedi, justement, avait initié dans le cadre du programme 100 jours le projet de construction des sauts de mouton pour répondre aux problèmes d'embouteillage à certains endroits. Pourquoi cela n'a pas apporté des réponses aux problèmes d'embouteillage?
Je reviens un peu sur le plan directeur qui se mentionnait. Les propositions des sauts de mouton, on en a fait allusion lors des études présentées par les Japonais. On a constaté que ça ne valait pas la peine de faire les sauts de mouton. Parce que les Japonais, ils sont tentés sur les terrains. Ils sont allés sur les terrains plutôt. Ils ont même fait le recensement vers les faubourgs de Kinshasa là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont étudié la direction, les mouvements que les gens effectuent de tel endroit à tel endroit. Ils ont même encore étudié, savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ces problèmes. Et tout ça, ça a été détaillé. Mais malheureusement. Et cette étude-là, ces plans directeurs, ça se trouve dans tous les services de l'État chargés des infrastructures routières.
Et pensez-vous qu'aujourd'hui, la construction des rocades par les Chinois apporterait des solutions efficaces aux problèmes d'embouteillage dans la ville?
Bon, avec l'observation qu'on fait sur plusieurs projets, moi je ne le pense pas, sincèrement. Pour moi, il y a un plan, un dossier qui existe et qui est bien outillé. Il faut quand même prendre ces dossiers, l'analyser, les décortiquer, peut-être les compléter s'il y a des failles. Faute de quoi, on risquerait de nous retrouver dans les cas des sauts de mouton et on va commencer à se plaindre.
Finalement, que préconisez-vous pour que les déplacements de la population à Kinshasa ne soient plus un casse-tête?
Bon, moi je continue à dire les plans directeurs pour des solutions. Parce que, en bref, ce plan a prévu les créations des routes stratégiques, ça veut dire une ceinture périphérique. Donc, je ne peux pas, l'avocat là dont on parle, c'est une petite variante de ces plans là-bas. Et je ne vois pas pourquoi on doit abandonner ces plans et prendre une portion de ces plans pour les
Congolaises. Qu'est-ce qui explique chez nous en RDC les routes coûtent toujours plus cher et ne durent pas longtemps?
Je vais vous donner une expérience à ce sujet. On devait travailler dans la route vers Beni là-bas. C'était des Chinois qui ont commencé à étudier le chiffre. Ils avaient donné les prix fabuleux. Nous leur avons demandé, monsieur, c'est bon, veuillez détailler vos prix là-bas. Alors, on peut pas détailler ces prix. Non, c'est pas possible. Pour évaluer les prix unitaires, il faut que nous ayons les sous-détails des prix. Qu'est-ce qui entre dans la détermination de ces prix unitaires? Oh non, c'est impossible là. Non, c'est pas impossible. Vous voulez pas présenter parce qu'on devait les coincer sur les plans techniques. Tout d'un coup, le type, il dit, non, écoute, bon, d'accord, ça va. Mais on vous fait un rabais de 4%. En fonction de quoi vous donnez le rabais de 4%? Nous voulions bien avoir les sous-détails des prix. On n'a pas réussi. Finalement, on nous a dessaisi même de ce dossier. On avait donné à un expert blanc de l'office de route, un conseiller, qui lui est arrivé assis à ce terme-là. Non, il faudrait qu'il y ait des sous-détails des prix. La réunion a été reportée pour un samedi. Les gars, samedi, il prend ses effets pour aller à la réunion. Il n'y a personne. On dit, reporter à une date ultérieure. Il est chez lui à la maison. Il suit à la télévision. On avait un contrat sur cette route-là. On signait les contrats de cette route-là. Même le rabais qu'on nous a fait de 4% a été annulé.
Ingénieur Balaï Kadima, je rappelle que vous êtes retraité de l'office de route, directeur technique techniques honoraires de cette société. Je vous remercie.
Ok, c'est moi qui vous remercie sincèrement, parce que ça me donne aussi l'occasion quand même de donner un autre son des cloches, parce qu'on entend des cloches comme s'il n'y avait pas de techniciens dans ces pays. Il y a des techniciens, je ne suis pas le seul, il y en a beaucoup qui me dépassent déjà au loin, mais c'est quand même bon, un autre son des cloches, peut-être qui pourra attirer l'attention de tout le monde.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.